La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes en train de parler de la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Voilà, aujourd'hui vraiment c'est une soirée spéciale. Nous savons qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas pu être présents. Alors j'étais hésitant à savoir comment on allait conduire ce moment. Mais nous allons quand même avancer dans l'exhortation. Et j'espère qu'on aura un peu de temps pour avoir un moment de prière. Amen. Je voulais totalement conclure aujourd'hui, et peut-être par la grâce du mardi prochain, totalement achever cette série. Ça permettra aux uns aux autres d'avoir la conclusion finale de notre série de cette leçon sur la prière. Est-ce que cet enseignement-là nous fait du bien? Alléluia. Voilà, cette leçon pour prier de manière efficace. Il y a tellement de choses que nous avons dites depuis le début de cette série. Il faut vraiment prendre le temps de réécouter ces choses et de laisser cette parole-là vraiment bâtir dans votre vie une vie réelle de prière. Sachez-le très bien. Aujourd'hui encore, on va le revoir parce qu'on va toucher la septième leçon. On va le revoir. La volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir sans que les chrétiens ne l'autorisent sur la terre. Et l'action par laquelle nous autorisons Dieu à agir sur la terre, c'est la prière. Amen. Amen. Le Seigneur dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite. Et nous avons montré cela dans la parole de Dieu, que Dieu a confié la terre aux hommes. Dimanche dernier, par exemple, on parlait de la fidélité. Vous savez, Dieu, un de ses principes essentiels, c'est la fidélité. Lorsqu'il dit quelque chose, il se tient à ce qu'il a dit. Il honore sa parole. Et Dieu a confié la terre aux hommes. Il est fidèle à cet engagement. Donc Dieu ne fait rien sur la terre, n'accomplit pas son plan sur la terre sans que l'homme ne se lève, sans qu'il y ait un homme, une femme qui se lève pour le lui autoriser. Alléluia. Il faut permettre cela. Il faut que l'homme permette afin que les choses s'accomplissent. Donc Dieu cherche un homme, une femme à qui il communique sa volonté, à qui il communique son plan. Il dit, voilà ce que je veux faire. Il dit, tu es l'instrument que je me suis choisi pour accomplir telle chose. Maintenant, toi, en tant qu'humain, ton devoir, c'est de prier, d'intercéder, de supplier, d'entrer dans sa présence, afin maintenant que cette volonté, ce plan de Dieu-là, puisse s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui, nous allons conclure la sixième leçon et toucher donc la septième leçon. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci encore pour cette soirée que tu nous donnes en ta présence. Merci pour ce merveilleux moment. Il y a une présence particulière. Tu as une présence particulière ce soir au milieu de nous, Seigneur Dieu. Et nous te sommes vraiment reconnaissants. Inspire-moi, Seigneur Dieu, les mots qui viennent de ton trône, les mots qui viennent de toi. Donne-moi de traduire la parole, Seigneur, de la vérité. Galvanise tes serviteurs et tes servantes dans une vie de prière forte, ferme, déterminée, Seigneur Dieu, sans relâche. Saint-Esprit, inonde-moi, revêt-moi. Dispose mon cœur afin de recevoir favorablement cette parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors donc nous avons étudié donc une série de leçons pour la prière efficace. Avec ce que je viens de dire comme introduction, juste pour rappeler que tout est possible. Tout est possible. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne va pas tout faire. Il ne fera que ce que les croyants, ce que les hommes et les femmes ont autorisé à faire au travers, ont autorisé à faire à travers de la prière. Dieu peut patienter. Rappelez-vous ce qu'il dit dans les livres d'Ésaïe. Il dit, je cherche une personne qui intercède. Mais si je n'en trouve pas, il dit, mon bras revient sur moi-même, je reste là et j'attends. Jusqu'à ce que je trouve une personne. Lorsque Dieu trouve quelqu'un qui le cherche véritablement dans la prière, Dieu change les circonstances, il change les situations. Amen. Nous avons appris à prier de manière efficace. Nous avons appris ceci. Que la prière efficace ne commence pas d'abord par ce que nous disons au bout de nos lèvres, mais elle commence à l'intérieur de nous. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit d'entrer dans le lieu secret et de prier avec notre intérieur. Donc, de ne pas nous limiter aux gesticulations physiques, le saut, mais d'entrer dans la profondeur. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit, en vérité. La Bible nous a parlé de la prière par l'esprit, en parlant de la prière en langue, n'est-ce pas? On a dit l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. La véritable intercession, quelquefois, c'est pas des mots que vous pouvez exprimer. des choses que vous pouvez dire, mais l'esprit émet des soupirs, des cris intérieurs à Dieu pour lui demander d'agir en faveur. Et quelquefois, ces soupirs-là sont traduits par la prière en langue. Tous ceux qui ont compris l'importance de la prière passent beaucoup de temps dans la prière en langue. Priez beaucoup, beaucoup en langue. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Il y a les choses que nous connaissons, que nous saisissons, nous le demandons dans la prière. Mais il y a un certain nombre de choses que nous ne savons pas demander. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain, ce qui va se produire après-demain. Alléluia. Alors lorsque vous mettez à prier en langue, quand l'Esprit se met à intercéder, il touche tous ces différents aspects-là qui ne sont pas montrés à votre conscience, à votre connaissance, à votre entendement. Dieu intercède, c'est pourquoi il faut prier en esprit. Il faut développer la prière en langue. Il faut aussi prier avec l'intelligence. L'intelligence vous permet de comprendre ce que Dieu fait exactement. Et la parole que vous comprenez, hein, par exemple ici le français, lorsque vous traduisez la prière en esprit par des mots, la Bible dit que celui qui prie, celui qui interprète, édifie. Hein, la prière édifie. Alléluia, ça veut dire construit. La Bible dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, lorsque je commence maintenant à déclarer en langage intelligible, j'amène ce qui était esprit à devenir matériel, à se matérialiser. Alléluia. C'est pourquoi je dois prier en esprit. Je dois aussi prier avec l'intelligence. Je dois prier avec ferveur. La Bible dit ceci, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Aujourd'hui, nous reviendrons sur quelques éléments de la prière fervente, surtout dans la 7e leçon. Amen. Pour que ma prière soit efficace et ne soit pas en dents de scie, je dois adopter une coutume de prière. Prier régulièrement. Avoir des heures régulières de prière. Ça me développe. Ça fait que quelles que soient les situations, les circonstances, je garde une vie de prière. Amen. On nous a dit aussi que pour que notre prière soit efficace, elle doit, les véritables prières de combat, la prière doit précéder le lever du soleil. Nous devons prier avant que le jour ne se lève. Amen. Et puis, dans la 6e leçon, nous avons étudié la procession de la prière, l'évolution de la prière, en nous basant sur la prière du Notre Père. Et Dieu nous a donné de dire des choses fortes, des choses importantes au travers de cette prière-là, du Notre Père, de notre relation de Fils à Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous avons compris qu'est-ce que Dieu attendait de nous, dans nos pensées, lorsque nous disions que ton nom soit sanctifié. On a vu que c'est pas simplement des mots que nous devons réciter, mais une pensée intérieure, une attitude profonde qui doit animer nos pensées lorsque nous prions. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Et c'est pratiquement là que nous nous étions arrêtés la dernière fois. Alors je vous ai fait la remarque de ceci, c'est que Jésus demande de prier du ciel sur la terre avant d'aborder le sujet en disant « Donne-nous notre pain quotidien. » Alléluia. Jésus nous donne cette leçon, c'est que quand vous priez, quand vous entrez dans un moment de prière, ne commencez pas d'abord par vos sujets personnels. Commencez toujours par prier pour les sujets qui concernent la globalité. D'abord, le royaume de Dieu. Amen. D'abord, les choses du ciel. Priez pour la terre. Et il dit encore dans le livre de Timothée, il dit, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, toutes sortes de prières pour les autorités. Quand vous commencez à prier pour l'ensemble, vous arrivez à mieux sentir votre prière. Alléluia. Alléluia. J'avais dit aussi ceci dans la partie de lorsque nous prions, lorsqu'on dit, Papa, toi qui es dans les cieux. Je vous avais dit, quand je commence à prier en voyant Dieu dans le ciel, je vois sa grandeur, je vois sa puissance, je vois sa force. Et ça me donne de la foi. Ça me donne de l'assurance dans ce que je demande. Amen. Quand tu pries, vois d'abord, vois Dieu dans le ciel. Mais quand tu pries, après le ciel, ne vois pas ta maison directement, vois la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Amen. Alléluia. Rappelez-vous ceci, les Écritures, la Bible dit, recherchez le bien dans le livre de Jérémie chapitre 29. Recherche le bien de la ville dans laquelle tu étais amené en captivité, car ton bonheur dépend du sien. Et dans le passage de 2 Timothée chapitre 1, il est dit ceci, je vous exhorte avant toute chose à prier pour les autorités supérieures. Il dit, car Dieu veut que nous menions une vie paisible. Autrement dit, si je ne prie pas pour le chef de l'État, si je ne prie pas pour les ministres, si je ne prie pas pour toutes ces personnes, je ne vais pas mener une vie paisible. Vous ne pouvez pas avoir une vie paisible si vous ne priez pas pour l'ensemble. Même si 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, mais quand même vous allez voir les gens tomber, ça peut vous effrayer un peu quand même. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre le temps de prier pour les autres. C'est le diable qui distrait les croyants, qui veut te distraire. Ça veut dire, il met tellement devant toi tes sujets personnels, tes défis personnels, tes challenges personnels, que lorsque tu considères l'ensemble de tes prières, tu pries très peu pour la Côte d'Ivoire. Tu pries très peu pour les intérêts du royaume de Dieu. C'est toutes ces choses-là qui font que nous ne sommes pas exaucés et que nos prières ne sont pas efficaces. Si vous voulez que votre prière soit efficace, écoutez, avant toute chose, dit 2 Timothée, avant toute chose, alléluia, priez pour les autorités. Priez pour tous les hommes. Amen. On dit amen avec moi. Amen, amen, amen. 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 Avant toute chose, il faut prier. Il faut prier. Là, on est en train de parler de l'évangélisation. Prions pour que les hommes soient sauvés. Prions pour que les personnes soient sauvées. La dernière fois, j'abordais ce sujet en parlant du mariage. Je dis, mais une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup de nous ne se marient pas, c'est parce qu'il y a trop de païens dehors. Et que même dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. C'est pas que, peut-être que la personne que tu demandes, elle vient dans l'église, mais elle n'est pas encore convertie. Ou elle est dans le monde, elle n'est pas encore convertie. Si tu ne prends pas le temps pour prier pour la conversion des hommes et des femmes, si tu ne prends pas le temps de prier, toi-même, tu ne pourras pas avoir ton exaucement. Si tu ne prends pas le temps de prier pour le développement économique, pour l'administration, comment est-ce que tu vas avoir un boulot? Enfin, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que ça devient plus compliqué. Ce n'est pas que tu ne peux pas avoir du travail, mais ça devient plus difficile. C'est une séduction du diable de vous amener à prier pour vous-même, pour votre travail, pour votre famille, de prier pour ta maison, avant de prier pour les familles de la Côte d'Ivoire et pour les familles de la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, fais comme ça. Il faut que ça devienne pour toi aussi une coutume. Père, je me tiens devant toi, regarde. Oh, regarde toutes ces personnes qui sont là dans le nord, qui sont dans ces régions, qui adorent encore les fétiches. Je prie, Seigneur, afin que tu les délivres, afin que tu les délivres. Sauve, sauve. Est-ce que tu pries comme ça? Quand tu viens en prier là, hein, au lieu de suivre la procédure de la prière de notre Père, dès que tu arrives, hein, après avoir dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on dit donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire ton pain quotidien. Ça parle de ton besoin présent. Quel est ton besoin? Je vais travailler. C'est ça ton pain quotidien. Quel est ton besoin? Je veux me marier. Quel est ton besoin? Je veux un véhicule. Quel est ton besoin? Je veux ceci, je veux cela. Mais la prière de notre Père ne commence pas. Notre Père qui est aux cieux, donne-moi à manger. Non, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi-même, tu as un sujet de prière, mais tu ne parles pas de toi d'abord. Tu parles de la terre. Tu parles de sa volonté qui va quitter le ciel pour se manifester sur la terre. Et ce n'est qu'après avoir dit cela que tu viens, donne-moi mon pain quotidien. On ne commence pas la prière par le pain quotidien. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Si le pays est en famine, ton pain quotidien va venir difficilement. Tu comprends, non? Ça sera plus compliqué. Donc, priez. Priez pour les ministres. Le chrétien ne doit pas faire partie de ce groupe de personnes qui passent leur temps à se plaindre du gouvernement, des députés, des ministres, des chefs d'État. Est-ce que vous avez vu dans la Bible une fois, tous les apôtres, lisez un seul passage où ils se plaignent des ministres. Vous ne pensez pas que ces personnes étaient dans des pays où il y avait des gouvernants? Ce n'est pas notre rôle. Quand tu es en train de t'asseoir avec les personnes pour discuter, t'es plainte du chef de l'État, t'es plainte de l'administration. Ce que tu fais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans les débats. Dieu, il agit. On résout les problèmes ou on se tait. Si tu ne peux pas résoudre, tais-toi et puis avance. Alléluia. 1 Timothée 2,1. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Si tu ne suis pas la prière ainsi, si tu ne suis pas cette procédure, toi-même, il te sera difficile de vivre honnêtement. Il te sera difficile de vivre ta vie chrétienne. Mais les rois, les autorités dont le Seigneur est en train de parler, est-ce que c'était des autorités, les rois de cette époque, est-ce qu'ils étaient chrétiens? Dites-moi. Les Césars et autres, les Pilate, là, il connaissait Jésus?
C'était pas des personnes qui massacraient la population. C'était pas des dictateurs. La Bible dit de prier pour eux. De prier pour eux. Sortez-moi un seul verset où on a dit de les critiquer. Sortez-moi un seul verset. Cherchez mon nouveau Bible. Ah non. Des dictateurs, des despotes. Des personnes qui tuaient, qui se lèvent, un gars qui se lève un matin comme ça, il dit tuer tous les enfants parce qu'il a appris que le roi des Juifs est en train de venir. Un gars comme ça. On dit de prier pour lui. On n'a pas dit de prier contre lui. Prier afin que Dieu l'enlève. Lisons notre Bible, obéissons. Montrez-moi un seul passage. Nous laissons nos âmes, nos débats, les choses charnelles du monde là, nous envahir, remplir notre esprit. Et quand nous venons, nous prions, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. Nous prions pour satisfaire nos passions et nos convoitises personnelles. D'où viennent nos passions? Elles viennent de ce que nous passons le temps à regarder les journaux, à être effrayés par les bruits de ce siècle. Et le diable nous distrait. Et nous arrêtons de prier. Et le mal continue davantage à entrer dans le pays. Pendant que les occultistes sont constamment en train de faire des incantations pour amener les dirigeants de ces nations à devenir corrompus, nous nous passons notre temps à nous plaindre. Et ils ne se plaignent pas. Dès qu'ils apprennent qu'il paraît que le chef était ici, il paraît qu'il prie un peu Jésus. Eux, ça les gêne. Il ne faut pas venir là dans la rue pour les critiquer. Lui, même pourquoi il va à l'église pour que... Non. Et ça commence à invoquer le diable. Pour dire, corromps-le. Il dit, il est venu amener... il va faire la lutte contre la corruption. Que lui-même, il devienne corrompu. Voilà comment le diable, les serviteurs de Satan agissent. Et nous, les chrétiens, de prier, nous sommes là. Tu as appris ce que le chef de l'État venait faire? Ah, oui. Il vient de commettre une injustice. Non. Ça, c'est pas la peine. Ça, là, sûrement, il va partir. Il va partir. C'est pas comme ça, mon frère. L'injustice. La Bible dit, si tu peux pas pour eux, afin que nous puissions mener une vie honnête. C'est nous qui construisons le pays par la prière. Il y a une bataille. Satan veut prendre le pouvoir. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un chrétien au pouvoir. Même si c'est un musulman qui est là, il faut prier pour lui. Même si on dit c'est un fétichiste. Prier. Mes amis, c'est pourquoi Dieu a fait évoluer l'église à des périodes où les rois là, étaient des vrais sorciers. Daniel priait pour Nebuchadnezzar. Lisez votre Bible. Vous avez lu que Daniel était le chef des magiciens, non? Vous n'avez pas lu ça? Dans leur pays, là, Daniel n'avait pas le même esprit que les sorciers de Nebuchadnezzar. Mais la Bible dit que quand Daniel a fini d'interpréter le songe de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar l'a nommé chef de tous les satrapes, de tous les magiciens. C'est-à-dire dans le pays, là, qu'on dit les sorciers. Daniel était le chef des sorciers. Mais, mes amis, vous avez arrêté d'être... Ce que vous lisez, c'est ça. Daniel était le chef des sorciers. Il était le chef des sorciers. Pas qu'il était sorcier. Il craignait l'Éternel. La Bible dit ceci, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire, les hommes sont dans les ténèbres. Nous devons leur apporter la lumière. Quand nous arrêtons de prier et que nous nous mettons à parler, à nous asseoir dans nos salons pour critiquer, nous sommes en train de pécher. Nous sommes en train d'amener le mal sur la terre. Nous contribuons aux œuvres du diable. Toi-même où tu es, est-ce que tu es parfait? Et les hommes rentrent dans la critique parce qu'ils ne croient pas en la puissance de la prière. Et ça, c'est ce que le diable veut mettre en nous. On ne croit pas. On ne croit pas que nos prières sont capables de changer l'attitude d'une personne. On ne croit pas que nos prières sont capables d'amener... C'est-à-dire, le président même, il s'est trompé, il a nommé un ministre corrompu. Le ministre arrive, il dit, oh là, je vais manger. Je t'assure, une bonne prière pour se tromper l'amener à changer d'avis. Un matin, il va se coucher dans sa chambre, il va se réveiller, il va dire, mais toi, mais pourquoi tu fais du mal au pays? Et ce monsieur peut changer. Un roi Nebuchadnezzar, idolâtre, Nebuchadnezzar lui-même, c'était un occultiste. Vous savez, dans le monde, l'occultisme mondial a deux grandes sources. L'Égypte, la Babylonie. Tous les grands occultes se reconnaissent de ces deux groupes-là. Soit ils viennent des pyramides égyptiennes, ou bien de la Babylone. C'est là-bas qu'ils ont appris l'occultisme. Le plus grand roi s'appelait Nebuchadnezzar, un autre s'appelait Pharaon. Dieu a amené dans ces pays ses serviteurs. La Bible dit, quand vous lisez le psaume, je crois 105 ou 107, il est dit que Joseph enseignait la sagesse aux anciens d'Égypte. Le Dieu de Daniel a amené Nebuchadnezzar à se prosterner, à reconnaître qu'il y a un seul Dieu, c'est l'Éternel. Et tout ça par la prière. Il priait pour cet homme. Il priait pour cet homme. Parce que même si ces hommes étaient des grands sorciers, Dieu lui a quand même donné un songe. C'est Nebuchadnezzar qui a fait un songe où il a vu le monde jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. La vision de Nebuchadnezzar. Ça nous conduit, nous aujourd'hui, les hommes de Dieu dans la prédication. Un sorcier. Vous connaissez pas ce passage-là, Daniel chapitre 2. Qui a eu le songe? C'est pas un sorcier? Donc même dans un sorcier, Dieu peut manifester sa volonté. Même au travers des chefs bandits, Dieu peut manifester sa volonté. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit ne juge de rien. Les hommes comme Daniel, ils ont eu tellement à prier pour ces rois, que ce sont des rois païens, les Syriens qui sont levés, qui ont libéré Israël, qui ont donné les moyens pour qu'on rebâtisse le temple de Jérusalem. Quand la Bible dit prier pour les autorités afin que nous puissions vivre honnêtes, il y a des personnes qui sont là, qui ne connaissent même pas Jésus, qui vont venir, qui seront remplies d'une sagesse et d'un comportement paisible, qui vont amener les, qui vont faire des investissements, avoir la sagesse, aider les personnes à sortir de la misère, de la pauvreté. Vous pensez que des personnes qui ont aidé certains pays développés à se développer, à faire reculer la pauvreté, vous pensez qu'elles sont chrétiennes? Mais vous pensez que ce qu'elles ont fait, ce n'était pas le plan de Dieu? De construire des maisons, de faire reculer la précarité. Vous pensez que ce n'est pas le plan de Dieu? C'était la volonté de Dieu. Il y a une chose est le salut pour aller au ciel. Mais une chose est la volonté de Dieu sur la terre. Ce n'est pas la même chose.
Alléluia. Alléluia. Dis à un voisin, arrête de parler. Arrête. Non, on dit il faut que je dise la vérité. Faut que quelle vérité? Et puis, ce que tu dis dans la rue là, franchement, qu'est-ce que ça apporte à l'humanité? Qu'est-ce que ça apporte? Rien. Oh, tu as une arme qui est 1000 fois efficace. Que tes paroles à ta soif, tu as pris. Hein? Non, le président, là-même, Dieu l'a disqualifié. Je te dis, hein? Hey, tu as vu sa vie, non? Hey, il paraît, il fait chaque femme, il fait tout ça là. C'est pas utile. C'est pas utile. Un autre va venir, il sera pareil ou il sera pire. Peu importe. Prie pour le roi. Prie pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Le premier ministre ne te plaît pas. On dit c'est un rebelle. C'est pas, on s'en fout qu'il te plaise ou qu'il ne te plaise pas. On dit prie pour lui. Il est autorité ou il n'est pas autorité? Il est autorité. Où est ton problème? Où est ton problème? Tu dis non, on ne peut pas accepter un gars comme ça. Il a fait la rébellion, il a fait la rébellion. Où est ton problème? Aujourd'hui, sa signature engage la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas prier pour lui. Il va prendre des décisions inspirées par le diable. Prendre, signer des décrets de destruction et qui vont amener tes parents à mourir. La prière peut amener une seule de ces personnes. Avant de faire une signature, Satan lui dit signe, signe. Et puis quelque chose vient et l'empêche. Le jour où il s'apprête à aller faire la signature maléfique là, son pneu crève, il a des blocages, il ne comprend pas. Et puis les choses s'embrouillent. Et puis après il se réveille. Tu t'es prêté à prendre une mauvaise décision pour la Côte d'Ivoire. Et puis il change. Vous n'avez pas besoin forcément de sentir que les gens viennent vous le dire. Vos prières ont de la puissance. Alléluia. Alléluia. On peut amener les choses à changer. On doit prier pour les autorités. Il dit, afin que vous meniez une vie paisible. Alléluia. Relisons encore ce passage. On va le dire tous ensemble. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. On y va. 1, 2 et 3. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Alléluia. Et si vous continuez encore, c'est très intéressant dans la suite. Car la Bible dit que c'est dans la paix que nous pouvons nous développer. C'est dans la paix que nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. C'est dans la paix que nous pouvons aller de lieu en lieu, prêcher l'évangile de Jésus. S'il vous plaît, frère, ne tombez pas dans le piège du diable. En vous mettant là, en train de débattre de la politique, de discuter des choses qui ne vont pas changer le système. Ta prière est efficace. Tu ne trouves pas du travail. Parce que en haut, ce n'est pas bien. Parce que c'est le diable qui règne. Et je vous ai donné cette vision que j'avais reçue il y a très longtemps. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi. Et vous m'avez jamais entendu sur cette chair parler de la politique. Quels que soient les événements qui arrivent en Côte d'Ivoire. parler, rentrer dans les débats. Votons un tel, votons pas. Ce n'est pas mon problème. Tout ce que je vous dis, dès qu'une personne est nommée, même si ça a été le plan de Satan de la positionner, dès qu'elle est là et que sa signature est capable d'apporter des dés des pauvres, des dés de les hommes ou de les détruire, dès qu'elle est positionnée, dès qu'elle est un poste de dignité, je rentre en combat. Je vais prier pour elle. Parce que la guerre est entre les forces des ténèbres et les forces divines. Tout le monde veut conquérir le territoire. Si Satan le possède à 100%, tout le pays va tomber dans le chaos. Mais si la lumière prend le devant, même s'il est venu et converti, la volonté de Dieu va commencer à prendre le devant. C'est ce que vous voyez dans la vie de Nebuchadnezzar. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Joseph est entré. Il a combattu le bon combat. De sorte que Pharaon m'a dit à Joseph, fais venir ta famille pour que Pharaon, un roi pervers, puisse accomplir le plan de Dieu. Il a fallu que Joseph soit à ses côtés et que Joseph l'influence par le royaume. Pour que la Babylonie occulte, sorcière, maléfique, puisse laisser Israël sortir, il a fallu des hommes comme Daniel, des hommes comme Néhémie, toutes ces personnes-là qui sont montées vers ces rois, qui les ont honorés, qui les ont respectés, qui ont prié l'Éternel pour eux. Un homme comme Néhémie qui est rentré dans la prière avec Esdras, qui dit, il faut qu'il comprenne et qu'il part le voir. Et le roi lui dit, va. Néhémie a prié. 3 jours dans la présence de Dieu, prier, chercher la face de Dieu. Lorsqu'il le rencontre, le roi dit, va. Demain, tiens l'argent. Va rebâtir la muraille de Jérusalem. Un roi, peut-être même, il a 40 femmes. Les chrétiens lui allaient prier pour lui, va regarder les 40 femmes là. Hein? Toi, Néhémie là, comment tu peux aller demander le plan de Dieu? Un homme qui a 40 femmes, il n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu n'a qu'à l'enlever d'abord. Il n'a qu'à l'enlever, il faut quelqu'un qui crée son nom. Tu n'as rien compris, mon frère. Les autorités sont des positions, non pas des individus. Ce sont des individus qui sont amenés. Satan lutte pour prendre la place. Dieu veut les influencer pour que son règne vienne. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc c'est ainsi que nous devons prier. De la même façon, nous devons prier pour nos communautés. Vous devez prier parce que ce sont des autorités. Dans l'église. Priez. Pour que Dieu inspire le pasteur, les chantres. Priez pour tous ceux qui, à un moment donné, influencent par la parole, par votre vie. Priez pour eux, avant même d'arriver à donner notre pain quotidien. Amen. Amen. Si vous priez de la sorte, vous allez voir, si vous intercédez de la sorte, vous allez vous rendre compte que Dieu vous exauce plus rapidement. Amen. Alors après ça, donc, il dit, toujours dans la prière de notre Père, donne-nous notre pain quotidien. On va voir. Dans la 7e leçon, j'aborderai des sujets qui nous permettront de mieux comprendre cela. La Bible dit de ne pas s'inquiéter en Philippiens 4, 6, de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Donc, après avoir intercédé pour ces sujets, quand je dis après avoir intercédé, c'est pas dit forcément dans la même heure de prière, hein, je fais tout, n'est-ce pas? Le matin, je peux prier pour les rois. À midi, je peux prendre ça pour mes propres sujets. Ou bien, je peux combiner ça le matin. Vous comprenez? Ce n'est pas forcément que si je prie, si j'ai 5 minutes de prière, ou bien j'ai deux minutes pour prier, notre Père qui est aux cieux, pour vite arriver à moi. Pour vite arriver à ma... Donne-moi mon pain quotidien. Là. Je dis, pasteur a dit, je ne t'ai pas dit, donne-moi mon pain quotidien d'abord. Donc, je dégage, je me débrasse vite. Père qui est aux cieux, tu es au ciel, tu es au ciel, tu es au ciel. Donne-moi 10 000 francs. Donne-moi 10 000 francs. Non, 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 non. Tu es là, dans la rue, tu marches, tu as besoin de 10 000 francs pour décanter une situation. Tu n'es pas obligé de faire toute la... Voilà. Mais c'est une pensée, c'est un état d'esprit. Seigneur, étends ta main pour voir à cela. Ça marche. Amen. Mais dans ta tête, dans ton esprit, tu sens quand tu dis, donne-moi mon pain quotidien, donne-moi les 10 000 francs dont j'ai besoin. Tu sais que celui à qui tu parles, c'est ton papa. Tu sais que c'est toutes tes pensées. Tu sais que celui à qui tu parles, il est dans les cieux. Amen. Et... tu sais que les 10 000 francs qu'il te donne là, ça intervient dans son plan global. Parce que c'est important que, avec les 10 000 francs là, tu puisses venir à l'église ou bien décanter des situations par rapport à son plan général. Amen. Donc c'est tout un état intérieur dans lequel tu te mets tous les jours. Quand tu commences ta journée, c'est cette prière là. Tu dois te mettre dans notre Père, Papa, toi qui es au ciel. Et toute la journée, tu es baigné dans cette atmosphère de pensée. Un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que David a pu terrasser Goliath, parce que constamment dans sa mentalité, il voyait un grand Dieu qui est au ciel, qui est tout puissant. C'est un état, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas des mots qu'on prononce seulement. C'est juste une manière de penser, une manière d'être, de considérer la présence de Dieu. Et par jour, je peux déclarer cela, je peux le confesser, je peux le proclamer, juste pour que ce soit une réalité dans mon esprit et dans ma pensée. Amen. Alléluia. Et je dois amener à Dieu mes requêtes, mes demandes. Je dois lui demander, il faut lui demander. N'ayez pas peur, demandez à Dieu ce que vous voulez. N'ayez pas peur de demander, même si cela vous semble bizarre. Demandez quand même. Il est préférable de faire une demande et puis d'entendre dire non. Pour savoir pourquoi Dieu ne peut pas exaucer, que de ne rien demander. Demandez. Il y a des gens qui sont venus voir un jour Jésus, ils ont dit, mais Jésus, quand tu seras à ton trône, dans ton trône, nous on veut t'asseoir à ta gauche et à ta droite. On leur a expliqué pourquoi on ne va pas leur donner ça. Mais au moins, ça nous a donné une leçon, n'est-ce pas? S'ils n'avaient pas demandé, on n'allait pas apprendre que la gauche et la droite de Jésus étaient déjà réservées. Voilà, beaucoup d'entre nous auraient demandé, on aurait fait la même chose. N'ayez pas peur de demander des choses à Dieu. N'ayez pas peur. Amen. À un moment donné, vous allez sentir peut-être l'Esprit de Dieu vous dit d'arrêter. Mais quand vous sentez qu'une chose, vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. Demandez votre pain quotidien. Alléluia. Demandez, c'est votre papa. Un enfant, votre enfant ne se gêne pas pour vous demander des choses. C'est sa maman. Tu vas lui dire non, mais demain encore, il va revenir pour autre chose. On lui dit non, maman, je veux les bonbons là. Non, ça va te donner la carie. Tu prends pas les bonbons après 16 heures. Bon, au moins, il apprend qu'on ne prend pas les bonbons après 16 heures. Mais un enfant qui est à côté, qui ne demande rien. Il ne demande pas à maman, il veut bonbon. Mais un gars comme ça, il te pose. Non, toi-même, la maman, là, tu as dit, mais toi aussi, parle. Donc, Dieu est notre père. C'est notre papa. Il faut qu'on lui demande nos besoins. N'aie pas peur. Si vous aimez une belle chemise, ah, papa, ça me plaît bien. Hein? Je vais la prendre. Si c'est pour ta convoitise, va te dire c'est ta convoitise. Au moins, tu apprends que c'est la convoitise. Mais ça, tu dis ça te plaît aussi. Tu vois, soyez, quand vous priez, soyez naturel. Soyez vrai. Vous êtes avec papa. Alléluia. Tout en le respectant, en l'honorant, en le vénérant, exposez vos besoins. Demandez tout. Avant de demander, est-ce qu'il va aimer ou il ne va pas aimer? Est-ce qu'il va aimer ou il ne va pas aimer? Mon frère, parle. De toute façon, il a déjà entendu les pensées. Donc, dis-lui en même temps. Dis-lui. Si la voiture, tu vois, j'ai une voiture qui te plaît. Tu dis, j'aime la voiture là. Hein? C'est pas grave. Si après, il va t'expliquer que tu convoites. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'obtiennent pas de grandes choses parce qu'ils ne demandent jamais rien. Un peu comme le fils qui est resté à la maison. C'est le fils prodigue qui a tout demandé. Ne lui demandait rien. Il est le serviteur fidèle. Or, dans son cœur, il avait envie lui aussi de manger le veau gras. C'est pourquoi ça lui a fait mal quand on a donné le veau gras à son jeune frère. Parce que lui-même, il dit, depuis là, je suis avec toi. Tu ne m'as pas donné le veau gras. En fait, ce qui a fait mal au grand frère, c'est l'histoire du veau gras. Mais le veau était gras. Il avait envie de régler. Quel jour je vais manger le veau gras? Puis on vient, on tue le veau gras, on donne à son petit frère. Ça lui a fait trop mal. Donc quand vous lisez l'histoire, vous comprenez que, parce qu'il répète ça, hein? Son père a habillé l'enfant, il lui a donné tout ça. Mais c'est le veau gras. Ah, ça lui a fait sérieusement mal. Oh, c'était son veau gras, il aurait pu le tuer un jour. Et puis engraisser encore un autre veau. Amen. Soyez naturel avec Dieu. Exposez-lui vos besoins. Amen. Donne-nous notre pain quotidien. C'est pour que Dieu ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par des supplications. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Libérez dans votre cœur, pour que votre prière soit efficace, tous ceux à qui vous en voulez quand vous arrivez dans la prière. Ne laissez pas l'amertume en vous. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Et la grâce de Dieu qui surpasse toute chose gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Et il est dit, faites en sorte que donc vos pensées soient pures, vraies, honnêtes. Ne laissez pas l'amertume dans votre cœur quand vous priez. C'est pourquoi il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose, va, hein, règle ça avec lui. La prière est efficace quand votre cœur n'est pas amer. Amen. Il faut traiter avec l'amertume quand vous rentrez dans la prière. C'est ce qu'il explique. Traitez avec l'amertume. L'amertume corrompt vos prières. L'amertume vous fait prier faussement. L'amertume, l'aigreur, détruit vos prières. Amen. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Priez contre les œuvres du diable. Priez pour que le Seigneur aplanisse vos sentiers. Lorsque je parlais de la prière du matin, avant le lever du soleil, vous avez vu que c'est une prière qui permet de chasser le malin, le méchant autour de vous. Chaque jour, le diable envoie des pièges contre votre vie. Le matin, quand vous levez avant le lever du jour, priez contre cela. Vous ne croyez pas que le piège, ce sont les sorciers, vous allez voir venir comme ça, la nuit, ou bien le matin, je vais te tuer. Non. Le malin, ce sont peut-être des personnes qui vont faire perdre le temps. Vous avez 24 heures, 2 heures qui sont passées, ça ne se rattrape plus. Et Satan peut envoyer des personnes qui grignotent 30 minutes par jour de votre temps. Tout ça, ce sont les yeux du malin. Sachez les discerner, sachez les éloigner de votre vie. Ne pensez pas que c'est insignifiant. Ne pensez pas que c'est insignifiant. C'est tout cela. Garde-nous du malin. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, priez pour moi afin que Dieu me garde des faux frères. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui vous distraient. Les attaques du diable, ce n'est pas seulement les sorciers qui viennent apparaître et qui vous donnent des maladies. La maladie est une distraction. Mais quelquefois, les causeries vaines sont aussi des distractions. Pendant que tu es là, ton âme est abattue, attristée, tu ne sais pas pourquoi. Ça ne te donne plus la force, n'est-ce pas, d'aller au travail ou de travailler avec diligence. Par exemple, tu es en train de bosser et puis subitement, une mauvaise image revient dans ta tête. Tout ça, ce sont des attaques de l'ennemi. Quand tu te lèves le matin, prie contre ces choses. Alléluia. Dis à Dieu, garde-moi des séductions du malin. Les séductions, elles sont subtiles. Ne croyez pas que vous êtes suffisamment fort pour triompher de toutes les séductions. Demandez à Dieu de vous garder. Parce que votre discernement n'est même pas suffisamment aiguisé pour découvrir et pour discerner tous les petits plans du Satan. Quand Satan est venu tenter Jésus, la tentation qu'il a utilisée, ce n'est pas des tentations flagrantes, va commettre adultère, va commettre impudicité. C'était transforme cette pierre en pain. Vous voyez ça? Est-ce qu'on ne peut pas te demander la même chose? Ça paraît simple, transformer une pierre en pain. Satan peut te mettre une idée comme ça. Et aujourd'hui, va te tresser. C'est ça, non? Oui. Sachant que quand tu vas aller chez la tresseuse, là, elle va te prendre parce qu'elle va mal, elle va me faire la coiffure même que tu ne veux pas. Je parle aux femmes parce que je connais vos histoires. Et tu vas aller t'asseoir chez elle. Satan dit, oh, je dis, va te tresser. Va faire tes cheveux. Tu aurais pu le faire le lendemain. Et puis tu dis, c'est vrai, hein? Je vais faire ça maintenant. Et puis le soir, je serai libre pour aller au culte. Oh, il a envie de gâcher le culte. Donc tu commences. D'abord, quand tu arrives sur la coiffure, il y a plusieurs personnes qui attendent. Elle dit, ça va vite aller. Attends, après ton tour arrive. Tu t'assois. On fait jusqu'à un moment donné, ça n'a rien à voir avec ce que tu voulais. Parce que tu as gâté ma tête. Tu as gâté ma tête. En tout cas, il faut reprendre. Tu as raté ton culte. Tu as raté des rendez-vous importants à cause du malin. Ne pensez pas que les tentations du diable. Quand on dit, Seigneur, garde-nous des séductions du malin. Les gens voient, non, ça veut dire, garde-moi de l'impudicité, garde-moi du vol. Ça, ce sont les péchés, les tentations gros grains. Les tentations gros grains, ce n'est pas les plus fréquentes. Ce sont les tentations petits grains. Qui finissent par t'amener à ne pas faire l'essentiel. À ne pas être à la prière quand tu devais être à la prière. À ne pas méditer quand tu devrais méditer. Et c'est toutes ces choses-là qui t'affaiblissent progressivement. Et puis après, maintenant, t'amènes les péchés gros grains. Et tu n'as plus la force de tenir devant ces péchés. Parce que tu as raté une heure de prière, tu as raté un truc, tu étais en train de bavarder quand il fallait pas bavarder, tu étais chez le coiffeur quand il fallait pas... Bon, en tout cas, des petites choses comme ça. Mais ce sont des choses que vous ne pouvez pas discerner facilement sans la grâce de Dieu. C'est pourquoi il a dit, Père, garde-nous du malin. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, garde-moi du malin. Mes frères, faites cette prière-là tous les jours. Que Dieu vous garde. Dis, Seigneur, préserve-moi. Et quand vous priez, ayez une vision élargie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous garder des grosses tentations, mais des choses très subtiles qui perdent votre temps et qui vous affaiblissent au fur et à mesure. Donc il a dit, donc, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Alléluia. Et puis, maintenant, la dernière leçon que j'aime bien aussi, la leçon 7. Amen. La leçon 7, c'est ceci. Sachez utiliser les formes de prière adaptées pour que votre prière soit efficace. La Bible nous parle de différentes formes de prière. Et dans la leçon 7, ce que nous finirons donc mardi prochain en concluant notre message, je vais partager avec vous quelques formes de prière. Je ne parlais pas de toutes, mais je pense que je vais toucher les grandes formes en général de prière. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il est dit, est-ce qu'on peut lire ensemble ce passage? 1, 2 et 3. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. La Bible dit que en tout moment, à tout temps, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit pour faire différentes formes de prières. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Donc, ta prière est efficace parce que tu sais adapter la forme de prière qu'il te faut pour un sujet, pour un combat, pour un challenge donné. Il y a des moments où on fait seulement des requêtes. On dit, Seigneur, donne-moi. Il y a des moments où on supplie. Il y a des moments où on chasse le diable. Comment tu peux savoir? C'est l'Esprit Saint qui vous conduit dans ces différentes formes de prière. La Bible en parle lorsque le Seigneur cite Matthieu chapitre 7, verset 7, en disant ceci. C'est qu'on a déjà parlé de ça en début de ce séminaire. Demandez, l'on vous donnera. Ça déjà même, ça parle d'un groupe de prière. Demandez, l'on vous donnera. Ça parle des prières faciles. Qu'est-ce qu'il dit facile? Ce sont les requêtes. Seigneur, donne-moi à manger. Seigneur, donne-moi à boire. Tout ça, ce sont les demandes. Et puis Dieu répond. Mais quelquefois, cette forme de prière n'est pas efficace. C'est pourquoi il dit, demandez, l'on vous donnera. Virgule. Cherchez. Vous trouverez. Ce n'est pas la même chose. Il y a des fois où certains challenges de votre vie ne vont pas être décantés juste par des demandes. Alléluia. Alléluia. Si tu as essayé de demander, ça n'a pas marché, mon frère. Mais fais virgule. Et puis rentre en chercher. Cherchez, vous trouverez. Le même Jésus qui t'a dit de demander, on te donnera. C'est le même Jésus qui te dit de chercher. Il y a des choses que vous cherchez. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas chercher. À peine a-t-on demandé, on n'a pas été exaucé, on dit, oh, ça ne marche pas, d'ailleurs même, je vais me débrouiller. Non, il y a cherché. Il dit, cherchez, vous trouverez. Je vous ai dit, trouver la même, c'est au futur. Ça veut dire, tu sais quand tu commences à chercher, mais tu ne sais pas quand tu vas trouver. Cherchez, vous trouverez. Bon, j'ai dit comment on cherche, hein. Parce qu'en disant, au lieu de chercher, eux-mêmes, ils se cherchent. C'est pas ce que Dieu a dit. On n'a pas dit, cherche-toi, et tu te trouveras. On dit, cherchez, et vous trouverez. Faut pas te chercher. Il y en a qui se cherchent. Après, il y a une virgule. Frappez, on va vous ouvrir. Il y a des choses qu'on prend en frappant. Avec assurance, frapper, ce sont des prières d'autorité. Ce sont des déclarations. Le pasteur Ivan, un enseignant là-dessus, nous a parlé, il a parlé de la foi de Dieu. La foi qui parle aux circonstances. Là. Tu ne demandes pas. La maladie est là. Elle est en train de te fatiguer. Père, guéris-moi. Ça y est là. Père, s'il te plaît, guéris-moi. Ça s'empire. Père, papa, tu es mon papa. Papa, guéris-moi. Ça augmente. Quand tu as persévéré comme ça, tu mets virgule. Tu vas chercher. Seigneur, d'où vient ce mal? Pourquoi? Chercher pose la question du pourquoi. Pourquoi ça ne parle pas? Pourquoi? La maladie n'est pas mon partage. Je ne peux pas accepter. C'est là qu'on rentre dans le chercher. Ça veut dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai demandé que ce mal parte. Mais il demeure. Pourquoi? Chercher. Commence par pourquoi. Je veux comprendre. Parce que tu commences par finir, tu finis par saisir que Dieu veut te révéler une clé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Le chercher va chercher, va trouver la clé. C'est-à-dire, chercher n'admet pas l'échec. Parce qu'il estime que cet échec-là est contraire à la parole de Dieu. Ceux qui s'arrêtent à la sorte des prières, de demander, après avoir demandé, ils n'ont pas obtenu, ils sont déçus, abattus, découragés. Je vous ai rendu le témoignage en ce qui concerne mon mariage. Je demandais, Seigneur, donne-moi la femme. Après, elle est partie. Quand elle m'a laissé, Je demandais qu'elle revienne dans le nom de Jésus. Qu'elle revienne dans le nom de Jésus. Je chasse les esprits qui la distraient dans le nom de Jésus. Je chasse les esprits, je sais que ce sont des esprits de mari de nuit, qui l'empêchent de me voir, de voir que je suis l'homme de sa vie. Au nom de Jésus, je brise le voile sur ses yeux. Rien, rien. Mais dans mon cœur, je sentais que c'était elle. Alors, j'entre en chercher. Seigneur, pourquoi? Voilà une année. Pourquoi? Pourquoi? Et quand vous commencez à chercher, Dieu ouvre vos yeux. Et là maintenant, Dieu me révèle qu'en fait, j'ai un problème. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, tu sais? Et Dieu me dit, est-ce que tu sais que tu es très dur? J'ai dit, ah bon? Oui. C'est pourquoi elle est partie. Ah bon? Sinon, elle m'aimait. Il dit, oui, elle t'aime. Toujours. Il dit, mais Seigneur, je dis, mais Seigneur, quand je lui demande là, elle dit, elle ne vient plus. Il dit, oui, parce qu'elle a peur de toi. Ah bon? Oui, mes amis. Cherchez. Et je continue de chercher. Pourquoi elle ne vient pas? Pourquoi? Tu es dur. Ah bon? Pourquoi? Et là, il m'explique maintenant mon passé. Il dit, tu vois, quand tu as quitté l'islam, les problèmes affectifs que tu as connus parce que tu es parti très jeune ont fait que tu as forgé dans ton cœur un cœur insensible. Tu ne sais pas pleurer. Or, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Toi, tu pleures jamais. J'étais un gars dur. J'ai dit, oui, Seigneur, je me suis rendu dur pour ne pas être fragile. Il dit, l'affection fait partie du côté douceur du cœur. Si tu tues l'affection, tu tues ton mariage. Mais tout ça, c'est dans le chercher. Donc, pendant que je cherche, ce n'est pas elle que Dieu est en train de convaincre, c'est sur mon travail. Chercher. Et je continue. Et cette recherche-là m'a pris près de 4 ans. Quand j'étais prêt, j'ai dit, fiston, vas-y. En fait, ma reine dit, je revois, il n'y avait rien entre nous, mais je la revois dans la vie. Et puis je vois que cette fois-ci, elle sourit avec moi. C'est plus agressif. J'ai dit, est-ce que je peux espérer? 4 ans plus tard. Et je lui reparle à nouveau. Durant les 4 ans, j'ai fait de nombreuses tentatives, frère. On m'a chassé. J'ai tout subi. Et puis, alors là, il me parle encore. Et là, elle dit, va réfléchir. Et puis après, elle vient. Non. Je sens que tu as changé. Elle ne m'avait pas vu depuis longtemps. Mais quelque chose s'était passé en moi. J'ai cherché. Et j'ai trouvé. Et j'ai eu ce que je cherchais. Alléluia. Une épouse merveilleuse. Amen. Il y a des quêtes intérieures qui vous font grandir. Cherchez. Dieu vous fait rentrer dans les sortes de prières du chercher. Quand il veut vous faire pousser. Quand il veut vous faire bouger. Il veut vous faire changer de place. Demandez. C'est quelqu'un qui s'assoit et puis qui reçoit. Le chercher. L'étape, la prière, les prières du chercher vous font quitter une zone de confort pour aller quelque part. Il y a des choses, Dieu ne peut pas vous les donner à la place où vous êtes. Il faut que vous vous déplaciez. C'est pourquoi vous devez faire toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Vous devez sentir à un moment donné, j'ai demandé, ça ne marche pas. Fais virgule, mon frère. C'est Matthieu 7:7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Quand tu sais que tu as demandé, tu as redemandé, tu as demandé avec jeûne. Ce n'est pas le jeûne, la prière qui fait le chercher. Non. Le chercher est conduit par le pourquoi. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme elles auraient dû? Tu as dit que c'est à la sueur de mon front que je vais gagner mon pain. Tu as dit que je dois travailler. Pourquoi depuis là, moi, je ne travaille pas? Même si les hommes de ce monde ne travaillent pas, je suis ton fils, je suis ta fille. Pourquoi? Tu demandes un boulot, une année, ça ne marche pas. 2 ans, ça ne marche pas. Maintenant, tu arrives à l'église, tu es abattu, tu ne peux plus parler à Dieu. Non, c'est bon. Pour ne pas rétrograder, je viens au culte quand même. Mais franchement, moi, je lui demande. Non, moi, Dieu est là même, je ne lui demande plus rien. C'est bon comme ça. Tu lui demandes, il ne te donne même pas. Mais lis Matthieu 7:7. Est-ce qu'on t'a dit que tout est exaucé par le demander? Demandez, l'on vous donnera, virgule. Cherchez, vous trouverez. Tu n'as pas appliqué chercher. Si Dieu promet de donner du travail à ses enfants, et que, après une année, 2 années, tu n'en as pas, commence à le chercher. Dieu a dit, il n'y aura pas de stérile parmi vous. Si je trouve que toi, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'arrives pas à enfanter, cherche. Tu vas penser que quand tu n'as pas cherché, là, Dieu aura pitié de toi après 4 ans. Non, il faut chercher. Cherche et tu vas trouver. Et vous ne savez pas lesquelles des prières, quels sont vos sujets pour lesquels vous allez chercher. C'est pourquoi vous allez voir des personnes avec vous. Certains, ils prient, ils ont tout le matériel. Ils demandent seulement, je veux une voiture, Dieu leur donne. Je veux une maison, Dieu leur donne. Mais par exemple, le mariage. Je veux me marier une année. Ça ne marche pas. Je veux me marier 2 ans. Ah. Tu dis, Seigneur, tu m'as laissé ou quoi? Il dit, je ne t'ai pas laissé. Pour vérifier, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de 2 millions pour monter une affaire. Il dit, tiens, 2 millions. Donc, tu es avec moi vraiment alors? Il n'y a pas de problème. Mais quand tu lui parles du mariage, silence. Il dit, mariage. Oh non. Mais tu me donnes tout l'argent du monde. Mais quand on parle de mariage, pourquoi tu ne me donnes pas? Parce que mariage n'est pas dans demander. Mariage rentre dans le chercher pour toi. Pour certains, mariage, ils ont. Travail, c'est chercher. Le boulot pour toi, c'est chercher. Quelqu'un est-il avec moi? Dis-moi, Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Donc, ces trois formes-là montrent 3 grands blocs de prière. Amen. Il y en a encore d'autres. Donc, quand on parle de demander, ça parle de tout ce qui est prière de requête, tout ce qui est demande simple à Dieu. Bon, il y a 2 choses dont j'avais souhaité parler avec vous. Il y avait les supplications, hein, parce que ça revient souvent. Dans toutes les sortes de prières, il parle très souvent de la supplication. Donc, on a lu, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Amen. Donc, je veux qu'on utilise les supplications et puis les actions de grâce. Parce qu'il revient souvent là-dessus. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications avec des actions de grâce. Donc on parle encore de supplications et actions de grâce. 1 Timothée chapitre 2 verset 1, on a lu tout à l'heure. 1 Timothée chapitre 5 verset 5, il est dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Hébreux chapitre 5 verset 7, en parlant de Jésus, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Amen. Dis avec moi supplication. Supplication. La Bible parle souvent de supplier. Supplier, c'est demander à Dieu, Seigneur, pardon. Donne-moi cette affaire. C'est ça supplier, non? Comment on supplie quelqu'un? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'il y a des... Regardez, comme, vous voyez tous les passages qu'on a cités qui parlent de supplication. Il y a beaucoup de choses qui ne seront exaucées dans votre vie que par des prières de supplication. Il y a des prières, vous ne pouvez pas vous asseoir, croiser les pieds. Ça, c'est les requêtes simples. Donne-moi. Il y a des moments où vous devez supplier, vous mettez à genoux. Papa, je t'en supplie. Hey, sauve-moi. Je suis fatigué. Vous devez supplier. Et il dit, faites toutes sortes de supplications. Pour qui? Pour les rois. Vous devez supplier pour les... Supplier. Vous savez, tout à l'heure, j'ai demandé de prier pour les autorités. Mais est-ce que vous êtes capable de supplier pour quelqu'un dont la vie n'est pas directement rattachée à vous? Il dit, supplier pour les rois, pour les autorités. Supplier. Tout le monde a dit, Seigneur, je t'en supplie. Le premier ministre, là, sauve-le. Rends-le sage. Seigneur, regarde le chef de l'État. Je t'en supplie. Je t'en supplie. La Bible dit, suppliez pour tous les hommes. Suppliez pour vous-même. Les prières de supplication, vous savez, elles sont un peu intermédiaires entre les requêtes et puis le chercher Dieu. Il faut supplier. La Bible en parle souvent. Nous, très souvent, si nous avons demandé, si Dieu veut le faire, il va le faire. Pourquoi lui demander pardon encore? Non, je vous ai dit ceci. Ce n'est pas que Dieu refuse de faire quelque chose. C'est qu'en fait, chaque fois qu'on le cherche, en fait, Dieu nous fait évoluer vers une autre dimension qui permet l'exaucement et qui permet la manifestation de ce qu'il a annoncé. Et on avait étudié Hébreux chapitre 5, verset 7, où Jésus, pour sa propre résurrection annoncée par les Écritures, a supplié Dieu. Jésus est là, Hébreux 5, 7, Jésus dit, « Je t'en supplie, Seigneur, ressuscite-moi, ressuscite-moi. » Avec des larmes. La Bible avait des grands cris. « Papa, pardon. Eh, mais pourquoi ? Ressuscite-moi. » Vous ne suppliez pas pour votre maison. Vous ne suppliez pas pour votre mari. Vous ne suppliez pas pour vos enfants. Il y a des prières. Si vous ne suppliez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous priez. Tu fais des prières des bluffeurs. Père. Père. Sauve mon mari. Sauve-le. Je crois en toi. Amen. Seigneur, amen, 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 amen. Ton mari est en train de se détourner. Tu vois la chose arriver. Mets-toi à genoux pour son âme. Supplie. Reste là. Père, je t'en supplie. La Bible est pleine de versets qui parlent de supplication. Depuis là, tu fais des demandes. Depuis là, tu ne trouves pas le travail. Reste là à prier en bluffant. Tu dis, au temps de Dieu, sa volonté se fera. Le temps de Dieu, là. Est-ce que tu le connais? Mais la Bible dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Tu es en train de prier, on te dit de supplier. Toi, tu, là, tu fais malin. Tu pries, non? Frère, depuis là, tu ne travailles pas. Quand il le trouvera bon, je suis quelqu'un de patient et j'attends sa volonté. Patient, une année. Je suis patient. Attends, tu es en train de vieillir chez tes parents. Je suis patient. Je suis. Père, tu ne veux pas supplier. Rentre en prière. Dieu va vous mettre dans des conditions qui vous amènent à supplier. Tu te mets à genoux. N'aie pas peur de supplier. Pourquoi vous pensez que la supplication, c'est un manque de foi? Supplie! On supplie pour quoi? On supplie pour les choses lorsqu'on sait que notre sujet est la volonté de Dieu. Lorsque la Bible est claire en ce qui concerne le sujet. Alléluia! C'est pour des gens de choses comme ça qu'on supplie. Dans la supplication, vous avez plusieurs choses. Vous avez par exemple ce que j'appelle le cri à Dieu. Le cri du cœur. Ça, ça fait intervenir Dieu. Quand votre âme est abattue et vous vous criez à Dieu. La Bible dit en Exode chapitre 15, verset 25. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua. Amen. Hébreux 5, 7. Avec de grands cris. Josué 24, verset 7. Il a dit, vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Dieu avait dit à Israël, allez. Je vais vous délivrer. Mais pour que l'Éternel ouvre la mer, engloutisse les Égyptiens, Israël a crié. Israël a crié pour que la prophétie qui annonçait leur libération de l'Égypte s'accomplisse. La Bible dit, ils criaient à l'Éternel et Dieu leur a suscité Moïse. Ils ont crié. Dieu avait décidé d'envoyer Moïse, mais ils ont eu besoin de crier. Il y a le plan de Dieu pour vous. Il y a des fois, vous allez simplement demander. Il y a des fois, vous devez crier. Vous devez laisser votre âme s'exprimer. Parler à Dieu du fond de votre cœur. Hein? Le cri à Dieu, c'est la prière de Anne. Anne, c'était un cri à Dieu. Là, quand le cri à Dieu, là, c'est pas, mon frère, c'est pas le son. C'est pas, waouh, parce que Dieu n'a qu'à crier. Non, faut laisser. J'ai dit, pour effrayer tout le monde dans le quartier. Voilà. Le cri, là, c'est quelque chose qui sort de l'âme. Ton âme crie. Tes lèvres sont là comme ça. Mais ton âme crie. Le cri est une prière puissante. Parce que c'est une prière qui sort de ton tréfonds, du fond de toi, et qui va vers le ciel. Quand tu rentres dans le cri, rien ne te distrait. Tu dis, il faut que je traite avec Dieu. Le cri, c'est pour ceux qui en ont assez. Il y a des circonstances dans lesquelles Dieu vous amène pour que vous dites, ça suffit. Et c'est là que vous commencez à crier. Maintenant, vous êtes là. Vous avez un comportement un peu stoïque. Là. Non. Je vais résister. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Non. Je n'ai pas parlé de murmurer. Murmurer puis crier, c'est deux choses différentes. Il y en a qui pensent que ce n'est pas la même chose. Le cri, c'est quelqu'un qui s'attend à Dieu. Et qui sait que son sujet est valable. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à crier. Apprends-moi à te supplier. Amen. Et puis rapidement, on termine avec ça, les actions de grâce. Les actions de grâce, souvent on ne comprend pas ça veut dire quoi. Les actions de grâce, c'est juste, la Bible dit, faites en tout temps des supplications et des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est juste les expressions de gratitude. Amen. Mardi prochain, je dirai que comment on a reçu encore. Actions de grâce là, ce sont les différentes formes de remerciement à Dieu. La Bible dit, pour les autorités, faites des actions de grâce. C'est-à-dire, tu prends le premier ministre, tu prends le président de la République. Et puis toi-même, tu viens dire merci pour lui. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et des actions de grâce. Ça veut dire, actions de grâce, ça parle, ce sont des expressions
de gratitude. Ça veut dire, autrement dit, c'est différentes formes pour dire merci. Je peux dire merci à Dieu par une offrande, pour ce qu'il a fait pour moi, c'est une action de grâce. Je peux dire merci à Dieu en disant, Seigneur, waouh, tu m'as donné la vie. Dimanche, je vais danser d'une manière comme je n'ai jamais dansé. C'est une action pour dire merci. C'est une action de grâce de venir s'arrêter devant. C'est une expression de gratitude. Je vais te dire merci en public. Je vais témoigner devant ton peuple de ce que tu as fait de moi. C'est une action de grâce. Et ça, c'est aussi une prière. Amen. Vous savez, quand vous avez des enfants, quand vous donnez quelque chose à l'enfant, vous ne le dites pas souvent, dis merci. N'est-ce pas? Parce que vous savez que quand quelqu'un fait du bien, c'est vrai qu'il ne s'attend pas, le remerciement n'est pas un achat. Mais ça touche le cœur de savoir qu'une personne est reconnaissante. Beaucoup de personnes ne sont pas exaucées parce qu'elles ne comprennent pas le mystère des actions de grâce. Savoir les expressions de gratitude. Hein, on n'est pas rempli de gratitude. Il faut être rempli de gratitude. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus, quand on dit, Jésus a pris le pain et il a rendu grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Ça veut dire, Jésus, il a juste dit, Seigneur, ce pain-là, c'est ta grâce. Les actions de grâce, c'est la capacité à reconnaître Dieu dans les plus petites choses et à lui dire merci. Celui qui sait être rempli de grâce permet à Dieu de lui donner davantage de grandes choses. Tu te lèves le matin, tu dis, waouh, je respire. Pour ça seulement, je m'en ai fait une offrande. Action de grâce. Tu dis, quoi? Juste pour cela? Les actions de grâce accélèrent, rendent les prières très efficaces. Parce que on est toujours touché devant une personne qui sait nous dire merci. Quelqu'un, tu viens, il a un besoin. Il te demande 100 000 francs, tu lui donnes 100 000 francs. Il s'en va, il ne te dit même pas merci. Ou bien même s'il te dit un petit merci, tu sens que c'est un merci. Merci, hein, merci. Et puis, mais c'est pourquoi Jésus, en parlant des lépreux qui avaient été guéris, Jésus, il y avait 10 lépreux. Celui qui est venu pour faire ça, Jésus était touché de son acte. Les autres ont gardé leur guérison. Mais ce lépreux qui est venu rendre grâce, Jésus a célébré cela. Ça touche le cœur de Dieu. Qu'on soit reconnaissant pour toute chose. Si vous n'apprenez pas à être reconnaissant pour la vie qu'il vous a donnée, les enfants que vous avez, le fait de pouvoir marcher, le fait d'avoir la santé, vous ne pouvez pas avoir de grandes choses. Il faut être rempli d'actions de grâce. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de supplications et des actions de grâce. Ou encore, et des expressions de gratitude. Soyez plein de gratitude, frère. Quand vous rentrez en prière, dites-lui merci parce que votre bouche même a la force de s'ouvrir pour prier. Sachez reconnaître Dieu dans votre respiration, dans le fait même que vous ayez la vue. Si vous savez le reconnaître, sa main est beaucoup plus facile, est beaucoup plus ouverte pour vous accorder encore d'autres choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Alors tu vas te tenir debout. Aujourd'hui j'avais voulu qu'on prie encore, mais je pense mardi prochain on aura le temps. On va appliquer tout cela. On va supplier pour les sujets ici. Alléluia. Alléluia. Voilà, je vous avais donné des exercices de prière. Dimanche, mardi prochain, venons avec des sujets. Venons, on s'apprête avec des sujets. Et puis, on va les prendre. On va commencer à prier chacun. Vous allez voir. Hein, la Bible dit de faire des actions de grâce. Quelquefois, le sujet même n'est même pas encore exaucé. J'en parlerai la prochaine fois. Mais déjà, tu lui dis déjà merci. Est-ce que vous savez que ça touche les gens, n'est-ce pas? Le gars n'a rien fait. Tu vas le voir. Tu dis non, je veux. T'entends vraiment, merci. Hein. Il dit pourquoi? Tu dis non, vraiment. Tu sais, dans la famille, là, tu es tellement bon pour nous. Tonton, merci vraiment. Merci. Vraiment, tonton, tu es un gars bien. Tu vois, quand tu as fini de dire ça, puis tu dis, tonton, je m'en vais. Il va se dire 10 000 francs. Hein, tiens, parce que tu l'as. Vous savez, nous, on ressemble à Dieu. Dieu nous a créé à son image. Tu l'as. Ça va reprendre. Mais quelqu'un dont tu vois toujours le visage, donne, donne, donne. À un moment donné, tu t'aimes se refaire. Tonton, je suis juste venu te voir aujourd'hui. Non, c'est pas pour te. C'est la dernière fois que tu m'as aidé pour l'école. Je te dis merci. Mais en dehors de l'aide pour l'école, là, tonton, je vais te dire, tu es un homme bien. Vraiment, tu es vraiment quelqu'un de bien. Va dire, ah bon, mon fils est comme ça, oui. Il faut savoir, hein, aujourd'hui la vie est difficile pour moi. Mais je veux dire, tu as une grande bénédiction pour toute notre famille, tonton. Tu as une grande bénédiction. Que Dieu se souvienne de toi. Je t'assure, ton oncle va payer ton école. Tu n'es pas obligé de venir dire, tonton, paye mon école. Il y a des fois, il faut savoir monter avec des actions de grâce. C'est pareil pour l'Éternel. Sachez venir vers l'Éternel avec un esprit de reconnaissance. C'est quelque chose qui touche le cœur. Prions l'Éternel que Dieu nous apprenne à prier et que ces choses-là soient en nous dans le nom de Jésus. Rianda bouchatari de bros. Pray de glory and abradi satari de bros. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu nous apprends la prière jour après jour. Aujourd'hui, tu nous as appris à considérer l'ensemble plus grand avant de considérer nos besoins respectifs. En ce jour, Seigneur, tu nous as parlé des formes de prière. Tu nous as enseigné qu'il y a des fois, il s'agira juste pour nous de faire des requêtes. Mais il faut aussi que nous apprenions à te chercher. Apprenions à chercher. Souvent, nous refusons de chercher parce que cela nous donne des douleurs dans le cœur. Nous préférons oublier les sujets qui sont nos attentes. Nous refusons de supplier. Nous voulons juste demander pour recevoir. Et nous refusons de supplier. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à supplier aussi. Apprends-nous à supplier. Apprends-nous à venir vers toi avec des actions de grâce. Des expressions de gratitude. Savoir apprécier ce que tu fais dans notre vie. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à ne pas être ingrat. Le contraire de l'action de grâce, c'est l'ingratitude. Ne pas savoir dire merci. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas savoir reconnaître tes bienfaits. Et même quand nous reconnaissons tes bienfaits, c'est du bout des lèvres. Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas profond. Pourtant, tu fais tellement de grandes choses pour nous. Apprends-nous à te reconnaître, Seigneur, et à savoir bénir ton nom. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur, notre Dieu. Alléluia.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.